Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes, grandes oubliées de l'histoire de la traite. Un texte de Hilary McDee Beckles, paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO. Majoritaire dans les exploitations coloniales dès le 18e siècle, les femmes constituaient un rouage essentiel de l'entreprise esclavagiste, autant pour leur force de travail que pour leur fertilité. La place qu'elles occupent dans les recherches historiques a pourtant été très longtemps marginale. Il y a 35 ans, j'ai publié une monographie intitulée « Natural Rebels, A Social History of Enslaved Black Women in Barbados ». Rebelles nées, une histoire sociale des femmes noires esclaves à la Barbade, non traduit. Elle a vu le jour à la suite d'une protestation dans le cadre de mon séminaire d'histoire à l'Université des Indes occidentales. Des étudiantes se sont élevées contre le fait que mes présentations négligeaient les femmes esclaves, pourtant majoritaires dans les colonies pendant la plus grande partie de la période esclavagiste. J'ai promis de me plonger dans les archives afin de rectifier cette situation, une sorte de réparation pédagogique. Ce livre était le premier du genre. L'historiographie de l'esclavage dans les Caraïbes s'en est trouvée changée. Le mouvement vers la justice de genre dans le discours historique avait commencé. Depuis, nous avons assisté à une explosion des recherches et publications sur la vie des femmes esclaves. La production littéraire est encore plus vaste. Elle constitue désormais la base empirique de la défense publique en matière de réparation pour l'esclavage. Une fois de plus, je me suis retrouvé entraîné par des étudiants à l'avant-garde d'un mouvement d'idées. Mes étudiantes activistes n'étaient pas toutes féministes, mais elles avaient toutes besoin de connaître les raisons de ce silence historiographique, en réalité un vide, autour de ce qui aurait manifestement dû constituer le point de départ de la recherche. Certaines voulaient savoir, par ailleurs, si j'avais hérité des préjugés des générations précédentes de chercheurs et si je n'avais pas résisté à ces raisonnements. Après une année de recherche épuisante dans les archives des Caraïbes, j'ai replongé mon esprit désormais très curieux dans les documents de l'Empire britannique. Prise de conscience. La découverte de Londres s'est faite à la manière de Christophe Colomb. Les faits étaient là depuis toujours, attendant qu'un aventurier induit en erreur les découvre. Voici ce que j'ai trouvé. Les données sur l'esclavage dans les plantations font davantage référence aux conditions de vie des femmes esclaves qu'à celles des hommes esclaves. Pourquoi, alors, les historiens n'en ont-ils pas tenu compte au cours d'un siècle d'écrits sur l'esclavage? La réponse semblait assez simple. La mentalité masculine ne favorisait pas une analyse objective du genre. Les données démographiques doivent être étudiées de manière approfondie. Les esclavagistes des plantations préféraient recourir majoritairement à la main-d'œuvre masculine uniquement dans les phases préliminaires de l'aménagement des infrastructures plantationnaires. Une fois les arbres enlevés et les fossés creusés, ils estimaient que les femmes étaient plus productives et plus efficaces pour l'entretien des plantations. Dans les Caraïbes anglaises, au milieu du 18e siècle, la préférence allait aux femmes. C'est la Barbade qui a ouvert la voie. Dès les années 1730 et jusqu'à la fin de l'esclavage dans les années 1830, les femmes noires ont été plus nombreuses que les hommes noirs. Ce fut une prise de conscience existentielle pour mes élèves, et elles ont eu besoin d'un récit expliquant pourquoi cette réalité n'était pas reflétée dans les analyses historiques. Laveuse, couturière ou domestique. Dans la plupart des villes coloniales, les femmes esclaves constituaient la majorité des travailleurs. Elles étaient laveuses, couturières, cuisinières, domestiques, prostituées et vendeuses ambulantes. Elles étaient louées par leurs propriétaires, à qui elles devaient remettre l'argent gagné. Ces tâches très diverses faisaient que les villes, comme les plantations, ne pouvaient pas survivre ni prospérer sans leurs services. Elle représentait également un secteur économique qui permettait aux femmes blanches de gérer leur propre activité. La majorité des femmes esclaves urbaines appartenaient à des femmes blanches dont la participation financière dans le secteur des plantations rurales était en revanche minoritaire. Ce qui était vrai dans les colonies britanniques l'était aussi dans les territoires français et néerlandais. Partout, le système esclavagiste reposait sur le principe juridique selon lequel seule une femme esclave pouvait donner naissance à un enfant esclave. La femme noire était donc la porteuse biologique et légale du statut de bien mobilier. Elle était la principale source de travail productif et de capacité de reproduction. Son enfant, qu'il soit engendré par un homme noir ou blanc, était comptabilisé comme un actif dans les livres de comptes. Elle était donc considérée comme un bien parfait. Elle représentait une force de travail, se reproduisait et procurait des plaisirs socio-sexuels sous la contrainte à son propriétaire. Le modèle économique de l'esclavage était donc fondé juridiquement, économiquement et socialement sur le statut de bien mobilier des femmes noires esclaves. Au cœur de l'entreprise esclavagiste. Dans ce contexte, la femme noire esclave était donc surexploitée et se trouvait au cœur de l'entreprise esclavagiste. Le système colonial tirait d'elle plus de richesses et de services que de ses homologues masculins. Elle constituait le principal facteur de pérennité de l'esclavage. Sa fertilité et sa maternité, ainsi que ses bras et ses jambes dans les champs, se combinaient pour en faire une super esclave aux yeux des esclavagistes. Pourtant, c'est précisément les tentatives de régulation de sa fertilité qui ont fait d'elle une rebelle née, désireuse de protéger son intimité des esclavagistes. Le mouvement de justice réparatrice, qui repose sur le postulat que l'esclavage est un crime contre l'humanité, devrait donc partir du principe que les esclaves n'étaient pas égaux entre eux. Les femmes ont supporté la plus grande part du fardeau et toute notion d'indemnisation devrait être fondée sur ce constat. Le mouvement de réparation de la CARICOM a intégré cette vérité dans son plaidoyer et sa méthodologie de calcul monétaire. La convergence de la recherche historique et du discours public à cet égard représente un point de bascule important dans ce qui était jusqu'à présent un récit essentiellement masculin. Les grands mouvements commencent par de petites questions dans des espaces habituellement paisibles. Les universitaires ont la responsabilité de répondre aux interpellations faites en salle de classe et de partir à la recherche de solutions radicales à ce type de questions. De la réflexion sur le genre au débat sur les réparations, les femmes se heurtent toujours au mur historique du savoir masculin dans leur recherche de la vérité et surtout lutte pour que cette réflexion soit menée. C'était « Les femmes, grandes oubliées de l'histoire de la traite », un texte de Hilary McDee Beckles, paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO.
Les partenariats autochtones du Québec dans l'éolien, un modèle positif. Un texte d'Alexis Riopel paru le 15 février 2025 dans Le Devoir. Dans les grands projets éoliens qui verront le jour au Québec d'ici 2035, les Autochtones jouent un nouveau rôle, celui d'actionnaires aux côtés des MRC et d'Hydro-Québec. Un modèle positif pour le reste du pays, croit James Jenkins, le directeur général d'Indigenous Clean Energy. D'un bout à l'autre du Canada, nous avons vu la participation autochtone augmenter très rapidement dans les projets d'énergie propre. À ce chapitre, le Québec est très ambitieux, affirme celui dont l'organisation aide les premiers peuples à s'engager dans les énergies renouvelables, notamment en fournissant de la formation et du mentorat. Les trois grands projets annoncés par Hydro-Québec dans la dernière année impliquent tous des communautés autochtones, Innu, Atikamekw et Malécite, et totalisent 5000 MW. Les partenaires communautaires, qu'ils soient autochtones ou municipaux, contrôlent ensemble 50% de chaque parc et empochent la moitié des profits. Ces projets éoliens sont d'une ampleur inédite au Canada. Ailleurs au pays, les parcs éoliens où les premiers peuples sont partenaires produisent généralement 100 ou 200 mégawatts, précise M. Jenkins, un membre de la Première Nation de l'île Walpole, dans le sud de l'Ontario, qui a lui-même piloté une participation autochtone dans deux projets. Depuis les années 1990 et jusqu'à récemment, un autre modèle de participation autochtone prévalait. Les promoteurs signaient des ententes prévoyant le versement d'une partie des bénéfices aux communautés. Toutefois, peu à peu, ces dernières ont voulu approfondir leur implication, raconte M. Jenkins. « On voit maintenant une transition survenir, dit-il. Comme les plus récents projets québécois en témoignent, les communautés autochtones signent dorénavant des clauses de participation. Elles deviennent actionnaires et disposent d'un siège à la table des décisions. L'impact sur l'économie locale est positif, estime-t-il. Ce nouveau modèle permet un développement plus rapide des projets et est respectueux des droits autochtones, selon lui. En outre, les représentants des communautés peuvent plus facilement proposer des modifications aux projets afin de limiter leurs répercussions négatives sur l'environnement et sur les pratiques traditionnelles, comme la chasse. Selon la Régie de l'énergie du Canada, on comptait 120 projets d'énergie renouvelable dans des réserves ou sur des territoires traditionnels autochtones durant la décennie 2010-2020. Du lot, la moitié était détenue en tout ou en partie par des communautés des Premières Nations, Métis ou Inuit. Au Québec, le projet éolien Apouyat de 200 MW, qui est sur le point d'entrer en service sur la Côte-Nord, implique un actionnariat autochtone. La nation Innu touchera 50 % des profits, l'entreprise Boralex l'autre moitié, avant même qu'Hydro-Québec dévoile sa nouvelle stratégie éolienne au printemps 2024, ce projet ouvrait la voie à l'émergence d'un nouveau modèle de participation autochtone. Vers 2010, le complexe hydroélectrique de la Romaine, toujours sur la Côte-Nord, reposait plutôt sur le versement de compensations financières aux Innu. Plus de 100 millions de dollars sont prévus au fil des décennies, mais les négociations, menées de mauvaise foi par Hydro-Québec, selon le tribunal, ont créé des tensions. C'était « Les partenariats autochtones du Québec dans l'éolien, un modèle positif », un texte d'Alexis Riopel paru le 15 février 2025 dans Le Devoir.
Esclavage. Les Caraïbes plaident pour une justice réparatrice. Un texte de Vereen Shepherd, paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO. Dans toute la région, les violences infligées dans le contexte de l'esclavage ont laissé des traces profondes et multiples. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander réparation, y compris sur le plan financier. Les souffrances endurées par les Africains déportés et réduits en esclavage dans les Amériques et par les peuples autochtones qui ont eux aussi souffert de la barbarie du système colonial sont avérées. Ce qui est peut-être moins reconnu, ce sont les implications financières persistantes, tant pour les sociétés esclavagistes que pour les esclaves et leurs descendants. De plus en plus fréquemment, les gouvernements et les institutions qui ont bénéficié de la conquête, de l'esclavage mobilier et du colonialisme sont sommés de reconnaître le rôle qu'ils ont joué dans ces systèmes et de procéder à des restitutions adéquates. C'est une demande croissante dans les pays du Sud global, qui comprennent l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que certaines parties de l'Asie et de l'Océanie. Il est primordial que ces entités reconnaissent que leur richesse a été créée par la destruction d'innombrables communautés, cultures et sociétés ethniques, qui continuent d'avoir des répercussions sur la capacité de celles-ci à prospérer. L'économiste Saint-Lucien et prix Nobel Arthur Lewis, auteur de « Labour in the West Indies » en 1939, l'historien et premier ministre de Trinité et Tobago Eric Williams, auteur de « Capitalisme et esclavage » en 1944, et l'historien économique barbadien Hilary Beckles l'ont déjà attesté. Dénégations ancestrales. Ces démonstrations de la nécessité des réparations contredisent de nombreuses dénégations ancestrales, comme celle de l'historien américain Seymour Drescher, qui soutenait en 1944 que l'abolition de la traite des esclaves par le Royaume-Uni en 1807 résultait de la mobilisation de l'opinion publique britannique contre ce commerce, et non de l'intérêt économique déclinant de l'esclavage pour ce pays. Avant même Williams et Beckles, l'économiste Arthur Lewis, célèbre pour ses recommandations en faveur de l'industrialisation des Antilles, était un fervent défenseur de la réparation des torts coloniaux. Il rappelait que les quelques 200 ans de travail gratuit extorqués par le Royaume-Uni aux personnes réduites en esclavage dans les Caraïbes constituaient une dette qui devait être remboursée. En réalité, dans les Caraïbes, l'appel à réparation pour le génocide des populations autochtones, pour la traite et l'esclavage des Africains, pour les accords fallacieux passés en Asie et les injustices post-esclavagistes et post-coloniales, fait partie de la jurisprudence et de l'histoire des relations Europe-Caraïbes depuis plus de deux siècles. Les pionniers en ont été des Africains réduits en esclavage qui savaient que leur capture illégale constituait une violation de leurs droits humains et qui ont lutté pour mettre fin au trafic transatlantique et à l'asservissement en tant que bien meuble. Quête de justice. Dans la période qui a suivi l'abolition de l'esclavage, les personnes émancipées ont repris la lutte pour obtenir des terres et des salaires décents. Les 18e et 19e siècles ont ainsi été marqués par des guerres dans toutes les Caraïbes. La guerre de Morenbee en Jamaïque en 1865 et les manifestations ouvrières des années 1930 dans la région ont poursuivi cette quête de justice réparatrice. Les classes dirigeantes cherchant à maintenir l'esclavage tandis que les masses refusaient de coopérer. Le mouvement social et culturel des Rastafari, qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 1930, s'inscrit dans cette logique. Il a été repris par la société civile, les universitaires, les hommes politiques et, depuis 2013, par les gouvernements de la région. Le premier homme politique à le faire a été l'ambassadeur Dudley Thompson, qui a joué un rôle clé lors de la conférence d'Abuja, Nigeria, sur la réparation en 1993, à laquelle ont également participé Chef Abiola, homme d'affaires nigérian prospère qui a œuvré pour inscrire les réparations à l'ordre du jour diplomatique international, et Lord Anthony Gifford, avocat spécialisé dans les droits humains au Royaume-Uni et en Jamaïque, qui se bat pour les droits des Caribéens. Aujourd'hui, de nombreuses institutions ont assumé leur passé et exhorté les pays impliqués à reconnaître les conséquences de l'esclavage et du colonialisme et à compenser les siècles de violence et de discrimination par des réparations, conformément à la déclaration et au programme d'action de Durban et au programme d'activité de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2014-2024. Une adhésion croissante. Parmi les institutions qui militent en faveur des réparations figurent des universités telles que Princeton aux États-Unis et Cambridge au Royaume-Uni, ainsi que des écoles créées par d'anciens esclavagistes, comme celle de Monroe en Jamaïque. D'autres font également pression en faveur des réparations, à l'image de l'Église anglicane, des mécanismes et des organes des Nations Unies, des banques, des compagnies d'assurance et des descendants d'esclavagistes. Ces derniers, menés par l'ancienne journaliste britannique de la BBC Laura Trevelyan, ont formé un groupe appelé « The Heirs of Enslavers », les héritiers des esclavagistes. La nécessité des réparations financières emporte une adhésion croissante et des chiffres précis ont été avancés par la société de conseil américaine Battle Group. Cette société estime que la somme totale due par les anciens États esclavagistes à 31 pays des Amériques s'élève à 107,8 billions de dollars des États-Unis. Selon ce calcul, le Royaume-Uni se verrait ainsi contraint à verser quelque 24 billions de dollars à 14 pays du CARICOM et 9,5 billions de dollars à la Jamaïque. Les États-Unis devraient quant à eux verser 26,790 billions de dollars pour la pratique de l'esclavage transatlantique dans leur pays et la France 9,288 billions de dollars pour la Martinique, la Guyane française, la Guadeloupe et la Grenade et 1,4 milliard à Haïti. Le Brésil, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas sont également concernés par ces demandes. Les réparations pour la période postérieure à l'esclavage sont estimées à 22,9 billions de dollars, ce qui porte la somme totale à un peu plus de 130 billions de dollars. Jusqu'à ce que justice soit rendue. Parallèlement, un plan pour une justice réparatrice a été proposé par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, groupe de 20 pays s'étendant des Bahamas au nord, au Suriname et à la Guyane en Amérique du Sud. La Commission des réparations de la CARICOM a été créée par les chefs de gouvernement des pays, le Centre de recherche sur la réparation de l'Université des Indes occidentales et les comités nationaux de réparation de l'ensemble des Caraïbes. Le plan, en 10 points, insiste notamment sur les excuses officielles, l'éradication de l'analphabétisme, la reconnaissance des savoirs africains et l'annulation de la dette. Quelle que soit la démarche choisie, le mouvement en faveur de la justice réparatrice continuera à se développer jusqu'à ce que justice soit rendue à toutes les personnes maltraitées par l'indécence de l'esclavage des biens meubles et de la suprématie blanche, telle qu'elle s'est exprimée à travers le colonialisme et se manifeste dans ses prolongements contemporains. Après tout, comme l'a déclaré en 1964 Sir Ellis Clark, représentant du gouvernement trinidadien auprès du Comité des Nations Unies sur le colonialisme, une puissance administrante n'a pas le droit d'extraire pendant des siècles tout ce qu'il est possible de prélever d'une colonie et, une fois cela fait, de se libérer de ses obligations. La justice exige qu'une réparation soit effectuée envers le pays qui a subi les ravages du colonialisme. C'était « Esclavage. Les Caraïbes plaident pour une justice réparatrice ». Un texte de Vereen Shepherd, paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO.
Connaissez-vous l'ABC du développement des tout-petits? Un texte commandité, paru le 2 mars 2024 dans la presse. À quel âge bébé devrait-il commencer à parler? Pourquoi ses dents de lait n'ont-elles pas encore poussé? À quoi servent les crises de colère? Le développement des tout-petits suscite toujours beaucoup de curiosité. Voici un petit jeu questionnaire pour tester vos connaissances en la matière. 1. À quel moment le tempérament d'un bébé se manifeste-t-il? A. Dès la naissance. B. Vers l'âge de 2 mois. C. Vers l'âge de 5 mois. Réponse A. Dès la naissance. Si chaque bébé exprime ses émotions et réagit à son environnement à sa façon, c'est notamment en raison de son tempérament qui est présent dès la naissance. L'humeur, l'irritabilité, la sensibilité sensorielle et la capacité d'adaptation aux situations nouvelles sont toutes des éléments influencés par le tempérament. Déterminé en grande partie génétiquement, il peut toutefois être modulé par l'éducation et par les expériences de vie. 2. Parmi ces sons, lesquels comptent parmi les plus difficiles à prononcer pour un tout petit qui apprend à parler? A. Le P et le F. B. Le Ch et le J. C. Le M et le N. Réponse. B. Le Ch et le J. On dit que près de 70 muscles peuvent être sollicités dans l'articulation des sons, alors apprendre à bien les prononcer n'est pas toujours un jeu d'enfant. Le Ch et le J donnent souvent du fil à retordre aux tout-petits. La majorité des enfants parviennent à prononcer ces sons vers l'âge de 4 ans. 3. Vrai ou faux, on peut déterminer si bébé sera gaucher ou droitier dès qu'il commence à tendre la main vers les objets. Réponse. Faux. Il faut attendre jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans pour que la dominance d'une main se manifeste. De manière générale, elle s'établit plus concrètement vers l'âge de 5 ou 6 ans au moment où l'enfant commence son parcours scolaire. 4. Combien de dents de lait pousseront dans la bouche d'un tout petit? A. 15. B. 20. C. 25. Réponse. B. 20. Au total, ce sont 20 petites dents de lait qui garniront la bouche des tout petits. Dans la majorité des cas, elles commencent à percer les gencives à partir de 6 mois jusqu'à environ 3 ans. Puis, vers l'âge de 6 ans, elles tombent graduellement pour céder leur place aux 32 dents permanentes. 5. Vrai ou faux, un bébé d'un an qui lance un objet par terre à répétition ne cherche pas à provoquer son parent. Réponse : vrai. Un bébé qui lance sa cuillère à répétition avec un petit air espiègle ne le fait pas par pure provocation, mais plutôt par amusement et curiosité. C'est une façon d'entrer en interaction avec son parent, un peu comme s'il s'amusait à lancer et à attraper le ballon. Cela lui permet aussi de découvrir le son que la cuillère produit en tombant. 6. À partir de quel âge le sens de l'humour se développe-t-il? A. 16 mois. B. 2 ans. C. 3 ans. Réponse. A. 16 mois. Le sens de l'humour peut se manifester beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Quand bébé met sa doudou sur sa tête pour faire rire, c'est sa façon de plaisanter. Un bébé sera plus enclin à développer son sens de l'humour si ses parents cultivent le leur au quotidien. Et le premier vrai sourire? En règle générale, il se manifeste autour de 2 mois. Avant cet âge, les sourires ne sont que des réflexes. 7. Pourquoi certains tout-petits font-ils plus de crises de colère que d'autres? A. Ils ont un tempérament affirmatif. B. Ils sont sensibles aux stimuli. C. Ils ont du mal à exprimer leurs émotions. D. Toutes ces réponses. Réponse. D. Toutes ces réponses. Plusieurs facteurs peuvent expliquer qu'un enfant soit plus porté à faire des crises de colère que d'autres, comme le tempérament, la sensibilité aux stimuli et la gestion des émotions. En cas de crise, il est important de se rappeler que celles-ci sont tout à fait normales, surtout entre l'âge de 18 et 36 mois. C'est une façon pour les tout-petits d'affirmer leur autonomie. C'était « Connaissez-vous l'ABC du développement des tout-petits? » Un texte commandité, paru le 2 mars 2024 dans la presse.